afin que, Seigneur, ta voix se fasse entendre dans chacun de nos cœurs. Tu es celui qui nous dit des paroles de vérité, tu nous dis des paroles de paix, des paroles de justice, des paroles qui nous relèvent. Seigneur, que ta parole se fasse entendre au milieu de nous et dispose chacun de nos cœurs à la recevoir avec joie, avec allégresse, Seigneur, et avec un esprit d'obéissance. Nous te le demandons par Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et c'est une fête où, en général, les enfants célèbrent leur papa quand ils le peuvent. Et c'est une journée où l'on dit merci au papa pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour tout ce qu'ils nous apportent, pour tout ce qu'ils sont. C'est une journée de remerciement, une journée de fête pour les papas. Et très souvent, cette fête de remerciement s'accompagne aussi de cadeaux. Donc on offre des cadeaux au papa, on fait la même chose pour les mamans, et on offre des cadeaux qui sont censés faire plaisir au papa. Alors pour les jeunes enfants, on va penser à des bricolages, à des dessins, à des mots écrits sur des papiers, à des choses très simples, mais que ces enfants vont faire avec beaucoup de cœur. Et pour les enfants plus âgés, on pense à des cadeaux un peu plus réfléchis, évolués. On va offrir une montre, un outil, un livre, un vélo, un gadget électronique. Donc on pense à des choses qu'on va réfléchir pour faire plaisir à son papa, ou alors parce qu'on sait que notre papa en a besoin. Eh bien, aujourd'hui, nous allons ensemble lire un texte qui nous parle de ce que Dieu, le Père, de ce que le Père pense des cadeaux qu'on lui offre. Un texte qui nous enseigne sur ce que Dieu pense des cadeaux qu'on lui offre. Et nous allons lire ensemble dans Malachie, chapitre 1er. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 1er. Où nous allons lire les versets 6 à 14. Malachie 1, 6 à 14. Nous avons lu Zacharie tout à l'heure. Et maintenant, nous lisons dans Malachie, qui dit ceci. Malachie 1, 6 à 14. Ça commence exactement comme ce dont on parle aujourd'hui. Hein ? C'est incroyable. Un fils honore son père. Et un serviteur, son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte que l'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu où on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Ce texte de Malachie nous parle donc de ce que Dieu, le Père, notre Père, pense des cadeaux qu'on lui offre. Lui qui est le Père éternel, qui est le Père du peuple d'Israël, il montre dans ce texte son mécontentement par rapport aux cadeaux qu'on lui offre. Et on peut lire clairement dans le verset 6 cette phrase « Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Dieu est donc dans ce texte insatisfait des cadeaux qui lui sont offerts. Il estime que les cadeaux qui lui sont offerts manifestent un mépris pour lui et un mépris pour sa personne. Il dit aussi dans ce texte que les cadeaux qu'on lui offre, les cadeaux, les offrandes qu'il reçoit ne lui sont pas agréables et qu'il ne souhaite pas les agréer. Pour le coup, ce n'est pas un papa qui est content de ses cadeaux, c'est plutôt un papa qui est mécontent de ses cadeaux. En général, en matière de cadeaux, on a l'habitude de dire que c'est le geste qui compte. On dit que c'est le geste qui compte, que c'est l'intention qui compte. L'intention d'offrir, l'intention de faire plaisir qui compte. Et du coup, si le cadeau ne nous convient pas, on se dit que ce n'est pas grave parce que le geste était là. Parce que l'intention était là, parce que le cœur était là. Mais dans ce texte, le problème, c'est qu'on se rend compte que Dieu ne regarde pas qu'au geste, il ne regarde pas qu'à l'intention. Ça, c'est valable pour nous. Nous ne regardons qu'au geste, à l'intention, et même si nous n'aimons pas le cadeau, nous disons que ça nous fait plaisir, que c'est extraordinaire. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dieu regarde à la nature des cadeaux qu'on lui offre. Dieu regarde à la nature des sacrifices qui lui sont offerts. Et dans ce texte, il examine les cadeaux qu'on lui offre et il dit que ça ne lui plaît pas. Voilà que le gentil enfant amène à son papa un beau cadeau et plutôt que de faire semblant et de dire « Ah ben oui, c'est extraordinaire, vraiment, j'en ai toujours rêvé depuis que je suis né, je rêvais d'avoir un tel cadeau », Dieu dit clairement à ses enfants, écoutez, vos cadeaux ne me plaisent pas, ça ne me convient pas. Alors, quel est le problème dans ce texte? Le Seigneur, en fait, s'adresse aux prêtres, aux sacrificateurs, mais indirectement, il s'adresse à l'ensemble du peuple. Il parle aux sacrificateurs, mais indirectement, c'est pour tout le peuple d'Israël que ce message est envoyé. Les prêtres doivent montrer l'exemple, c'est eux qui doivent enseigner la volonté de Dieu et qui doivent aussi jouer ce rôle d'apporter des bons sacrifices devant Dieu. Mais quelque part, Dieu, là, adresse un reproche à tout son peuple, pas seulement à quelques-uns. Et en fait, ce que Dieu leur reproche, c'est de lui offrir des aliments impurs, c'est-à-dire des aliments qui ne sont pas conformes à ce que la loi demande. La loi de Moïse donne un certain nombre de conditions pour les offrandes que l'on doit apporter devant Dieu. Et le peuple à cette époque, les sacrificateurs à cette époque, offraient devant Dieu des sacrifices qui n'étaient pas conformes. La loi de Moïse prévoyait notamment qu'on devait apporter, par exemple, une bête mâle sans défaut. On apportait des bêtes sans défaut, par exemple un bœuf, un âne, un chevreau, mais qui n'a pas de défaut. On n'apportait pas la dernière bête qui était à moitié amochée. On apportait les plus beaux. On devrait offrir un animal qui n'a pas de malformation. On devait offrir un animal qui n'était pas aveugle, qui n'était pas estropié, qui n'était pas mutilé, qui n'avait pas d'ulcère, qui n'avait pas la gale, qui n'avait pas de dartre. Et si, le texte dit aussi que si on offrait par exemple à Dieu un bœuf ou un agneau, on devait veiller à ce que cet animal n'ait pas un membre trop court ou un membre trop long. Et donc en fait, quand on offrait à Dieu, on était censé offrir à Dieu selon ses prescriptions, mais on était censé en fait offrir à Dieu des animaux de qualité. Et ce que Dieu est en train de leur reprocher, c'est de dire en fait, vous ne respectez pas le cadre que j'ai donné dans la loi par rapport au sacrifice que vous devez m'offrir, mais vous m'offrez du grand n'importe quoi. Vous venez devant moi et vous apportez plein de choses qui ne sont pas conformes, et à cause de cela, vos sacrifices ne me plaisent pas. Et Dieu est en train de mettre en évidence que les prêtres et le peuple, en fait, font preuve de mépris envers lui et pour sa table. En apportant ce type de sacrifice, il méprisait Dieu et il méprisait la table du Seigneur. Cette façon d'agir marquait un manque d'honneur pour Dieu, un manque de respect, de révérence envers Dieu et un mépris pour son autel. Et il dit au verset 7, la table de l'Éternel n'a guère d'importance. Vous dites, la table de l'Éternel n'a guère d'importance. Vous vous méprisez ma table et c'est pour ça que vous m'amenez toutes sortes de sacrifices qui ne sont absolument pas ce que j'ai demandé en croyant que je vais les agréer. Avec Dieu, il n'y a pas que l'intention qui compte. Encore faut-il apporter des sacrifices qui soient conformes. Cet avertissement de Dieu marque clairement ce que Dieu souhaite. En fait, si on prend les choses à l'inverse, là Dieu leur reproche en fonction de ce qu'ils font, mais on pourrait tout simplement dire, mais alors qu'est-ce que Dieu attend ? Dieu attend des sacrifices conformes à la loi, Dieu attend des sacrifices de bonne qualité, des sacrifices de qualité qu'on approche devant lui. Et la Bible nous enseigne que tout croyant en Jésus-Christ est un sacrificateur. Et nous avons eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure, nous sommes tous en Jésus des sacrificateurs. La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc nous sommes un royaume de gens dont la mission principale est d'apporter des sacrifices devant Dieu. Et donc en fait ce texte s'adresse à nous, puisque c'est notre mission, c'est notre rôle, c'est notre appel d'apporter des sacrifices devant Dieu, un royaume de prêtres, de sacrificateurs. Cet accès que nous avons auprès du Père, allons auprès de Dieu, ce n'est pas un accès que l'on a pour danser la danse du ventre devant Dieu. Ce n'est pas un accès qu'on a pour dire j'ai un accès, c'est pour apporter des sacrifices. Pour apporter des sacrifices. Vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, et nous sommes tous appelés à nous présenter devant Dieu sans cesse pour lui apporter des sacrifices. Alors la question au regard de ce texte que nous pourrions nous poser, c'est cette critique ou ce reproche que Dieu fait aux prêtres de cette époque, est-ce que Dieu pourrait nous faire le même reproche? Est-ce que Dieu pourrait nous adresser à nous aussi, comme sacrificateurs, le même reproche? Est-ce que Dieu pourrait aussi nous dire qu'il ne veut pas recevoir nos sacrifices parce que ce sont des sacrifices de mauvaise qualité? Est-ce que Dieu pourrait nous dire à nous aussi, écoutez les amis, c'est bien gentil, vous venez, vous apportez des trucs, mais en fait, moi, ce n'est pas du tout ce que je vous ai demandé, ça ne me plaît pas ce que vous m'apportez. Est-ce que Dieu pourrait nous dire ça aussi? Il est question pour chacun d'entre nous de nous interroger sur la qualité des sacrifices que nous apportons, sur la qualité de la louange que nous offrons à Dieu. Est-ce que nous offrons à Dieu une louange estropiée, aveugle, sans valeur, une louange du bout des lèvres, comme ça, une petite louange comme on peut la donner à demi-mot? Ou est-ce que nous offrons à Dieu une louange de qualité en lui offrant le meilleur de notre louange, le meilleur de notre cœur, le meilleur de ce que nous sommes? Est-ce que dans le culte, nous donnons à Dieu la louange dont il est digne? Ou est-ce que nous lui apportons une louange de miettes en lui disant « Seigneur, contente-toi de ça et fais avec ». Il s'agit de nous interroger sur la qualité des offrandes que nous offrons à Dieu. Lorsque nous offrons à Dieu, est-ce que nous offrons les dernières choses qui nous restent, les derniers trucs qui ne nous servent plus à rien, qu'on offre à Dieu en disant bon, « Seigneur, écoute, satisfais-toi de ça. Hein? Tu es un gentil Dieu, alors prends ce que je te donne ». Dans 2 Samuel 2:24, le roi David veut aller offrir des sacrifices au Seigneur et il veut bâtir un autel. C'est comme ça qu'on disait, quand on disait qu'on offrait des sacrifices, on va bâtir un autel pour l'Éternel. Et il veut bâtir un autel sur le champ d'un monsieur qui s'appelle Orna. Et Orna lui dit, mais tu sais, roi David, ce champ et tout ce qu'il y a dessus, tous les animaux qu'il y a dessus, ils t'appartiennent. Tu les prends et tu offres un sacrifice à l'Éternel. Et David refuse le don de Orna et il lui dit « Non, je veux l'acheter à prix d'argent, cette terre, et je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a rien coûté. » Quelle mentalité il avait! Il connaissait Dieu, David. Il savait bien qu'on ne s'approche pas devant Dieu avec des trucs qu'on lui balance comme ça au rabais. On s'approche devant Dieu avec quelque chose qui nous coûte. Avec quelque chose qui a de la valeur pour nous. Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne qui ne m'a pas coûté. Ainsi, un enfant de Dieu, lorsqu'il veut offrir à Dieu, que ce soit la louange, que ce soit le service, quel que soit ce que nous offrons à Dieu, indépendamment même de l'argent, il s'agit à chaque fois de faire un sacrifice, d'offrir à Dieu un sacrifice. Offrir un sacrifice, c'est offrir quelque chose qui nous coûte. C'est se défaire de quelque chose qui a de la valeur pour nous et que nous décidons volontairement d'offrir à Dieu. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Offrir à Dieu quelque chose qui a de la valeur pour nous, quelque chose qui nous coûte quelque chose, que nous donnons à Dieu. Est-ce que c'est bien comme cela que nous concevons le service que nous apportons à Dieu? Est-ce que c'est bien comme ça que nous nous approchons de Dieu en disant, Seigneur, ça me coûte quelque chose, mais je te le donne parce que tu es Dieu? Ou alors est-ce que nous nous débarrassons devant Dieu? S'il s'agit aussi de nous interroger à la qualité des gestes que nous posons pour Dieu. La qualité des gestes que nous posons pour Dieu. Lorsque nous nous engageons au service de Dieu, est-ce que c'est avec une petite énergie, ou du « allez, je vais faire un petit truc pour le Seigneur, ou pour l'Église », ou est-ce que c'est de tout notre cœur, en donnant à Dieu la meilleure qualité de ce que nous faisons, la meilleure qualité de notre engagement? Lorsque nous voulons mettre un temps à part pour Dieu, un temps pour prier, un temps pour servir, un temps pour l'adorer, un temps pour écouter ou lire la Bible, est-ce que nous prenons un temps à part, un temps de qualité que nous donnons à Dieu, même si ça nous coûte quelque chose, ou est-ce que nous réservons à Dieu les 5 minutes qui nous restent en attendant chez le dentiste? « Oh, ben, j'ai rien à faire, je vais lire la Bible. » Retenons un principe fort simple. C'est simple. Ce que nous donnons à Dieu indique comment nous le considérons. Ce que nous donnons à Dieu indique comment nous le considérons. On pourrait dire en quelque sorte, montre-moi ce que tu donnes à Dieu et je te dirai qui est Dieu pour toi. En fonction de ce que nous apportons devant Dieu, on peut facilement dire comment nous le concevons. Si nous lui apportons les miettes, ben nous savons que nous le considérons comme rien du tout. Alors que si nous lui apportons des sacrifices de qualité, cela montre que nous le considérons. Et cela est vrai dans nos relations, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous attendons des gens qui sont censés nous considérer? Nous attendons certaines choses. Ce que nous donnons à Dieu montre comment nous le considérons. Et c'est ça aussi que l'on appelle sanctifier le nom de Dieu. Le nom de Dieu est saint. Mais il s'agit dans nos gestes de manifester notre compréhension de qui est Dieu. Et quand nous nous approchons de lui, de lui offrir le meilleur de ce que nous pouvons lui apporter. L'année passée, il y a 1 an, jour pour jour, quelle histoire nous avons ensemble, n'est-ce pas? Nous avons vu l'année passée la devise de Jeanne d'Arc. Vous vous souvenez de la devise de Jeanne d'Arc? Rappelez-vous, vous étiez chez vous. On était en confinement, alors j'étais avec Anthony, et Priscilla et Coralie. Et on était là tous ensemble avec David et vous étiez chez vous. Avec vos petits spéculoos devant l'écran. Et on avait vu la devise de Jeanne d'Arc. Qui se souvient? Tu te souviens, Francis? Oui?
Messire Dieu, premier servi.
Messire Dieu, premier servi. Messire Dieu, premier servi. Une devise, justement, qui résume cette position que l'on a lorsque on sait qui est Dieu. Quand on comprend qui est Dieu, alors on se dit, Messire Dieu, premier servi. Messire Dieu, premier servi. Il s'agit que Dieu soit premier en toute chose, et cela concerne l'ensemble de notre vie. Et il ne s'agit pas seulement des sacrifices que nous faisons, mais il s'agit aussi parfois de donner à Dieu le respect auquel il mérite. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on nous force. Hein. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'on nous arrache. C'est juste correspondant à qui est Dieu, en fait. Rien que lorsqu'on prononce ce mot, ça appelle nécessairement le mieux, le plus grand. Parce que nous apportons à Dieu. Parfois, il nous arrive de différer les choses de Dieu. C'est aussi une façon d'apporter de mauvais sacrifices. Nous différons les choses de Dieu. Nous mettons les choses qui sont pour notre plaisir ou pour notre confort en premier, et les choses de Dieu peuvent toujours attendre. Nous savons que Dieu attend de nous quelque chose, mais la semaine prochaine, la semaine d'après, il y a toujours quelque chose qui fait que les choses de Dieu peuvent attendre et qu'elles peuvent attendre après les nôtres. C'est aussi une façon d'apporter des mauvais sacrifices devant Dieu. Lorsque nous voulons faire des aménagements dans notre maison, dans notre living, on doit aller chez IKEA. Ah, alors là, on va se préparer. Bon, allez, on doit aller chez IKEA. Donc, fais bien le plein de la voiture. On va prendre la remorque. Demande à quelqu'un qu'on ait de quoi brancher la remorque. Comme ça, on est bien. Alors là, on se prépare parce qu'on va aller chez IKEA, un nouveau living et tout ça. Mais quand il s'agit de faire quelque chose pour Dieu, alors là, ça peut attendre. On diffère les choses de Dieu. Il s'agit aussi, par exemple, apporter de mauvais sacrifices, ça peut être aussi de présenter à Dieu des choses qu'aucune autre autorité n'accepterait. Dans le texte, Malachie 1, verset 8, Dieu dit, quand tu apportes une boîte, une bête boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal, offre-la donc à ton gouverneur. Il dit. En d'autres termes, il lui dit, mais est-ce que ton gouverneur, il accepterait ce que tu m'apportes? Est-ce que ton gouverneur accepterait ce que tu me donnes? La réponse est non. Il nous arrive d'apporter à Dieu des choses que nous ne nous permettrions pas d'apporter à un humain, à un bête humain. Ce qu'un humain n'accepterait pas, parfois, nous donnons à Dieu aussi... c'est à Dieu de se mettre dans les trous de notre agenda, alors que quand il s'agit de prendre un rendez-vous chez le médecin, on va bouleverser notre agenda. Ou même un truc qui nous convient. Si vous devez aller chez... comment est-ce qu'il s'appelle le bonhomme, là Tui-Tui. Enfin, les agences de voyage, Tui-Tui, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Tui. Ah. Si vous devez aller chez... si vous devez aller chez Tui... Pour réserver votre voyage, parce que vous avez envie de partir en vacances, c'est bien normal. Vous allez. Si on vous dit, écoutez, vous devez venir à 18h30 parce que c'est le seul moment qu'on a et on vous donne vos tickets, mais vous allez tout annuler pour être là. Mais quand Dieu nous donne rendez-vous, alors là, nous pensons qu'il peut toujours avoir le temps. Et vous savez, si on descend au niveau humain. Faisons un petit délire entre nous. Hein. C'est Gino, un jour, il m'a dit un truc qui m'a poussé à me dire on peut faire ce délire-là. 5 secondes, après on oublie ce délire. Imaginez-vous que vous êtes Dieu. 5 secondes. Et vous avez un bonhomme, c'est votre enfant. Vous en avez plein, vous en avez un. Vous lui demandez des trucs. Et il dit toujours, je le ferai après. Je le ferai après, ça c'est pas ma priorité, j'ai ça à faire, je dois aller au bowling, je dois aller là-bas, je dois faire ça, je dois... Voilà. Et puis, cet enfant-là vient devant vous et il prie, « Oh Seigneur, il me faudrait ça. » Vous diriez quoi? Rastin, hein? On dirait, maintenant, quand c'est moi qui ai quelque chose à te demander, je dois toujours avoir le temps. Et quand toi, tu me demandes quelque chose, attends. Hein. Beaucoup de non-exaucement à nos prières peuvent se comprendre avec ces principes. Nous ne donnons pas à Dieu la considération qu'il doit avoir et nous voudrions qu'il soit toujours le premier à nous répondre. Alors que nous le mettons à la dernière place. Le fait d'apporter à Dieu des choses que nous n'apporterions à personne. Et aujourd'hui, dans notre monde, aujourd'hui, les chrétiens ne s'en rendent même plus compte. Heureusement que nous avons des textes comme ça dans la Bible, sinon nous serions complètement perturbés. Hein. Tous ici, hein, je ne vise personne vraiment, tous ici, hein, si on va à un anniversaire le samedi soir, on va dire, oh tu sais pas, c'était super, c'était ou une pendaison de crémaillère, c'était super la pendaison de crémaillère, on s'est éclaté, il y a eu de la musique jusqu'au soir. On a mangé un morceau de choco, de gâteau au chocolat, c'était super. Et puis on a resservi le champagne. On est rentré à la maison à 2h du matin. Pas venir au culte, hein. Pourquoi? Parce que on a fait la bringue jusqu'à 1h du matin. Donc Dieu peut attendre. Donc Dieu peut attendre. Moi, je vous dis ça sincèrement, mais je ne sais jamais quoi répondre quand quelqu'un me dit ça. Parce que je sais ce que je devrais dire. Mais je ne le dis pas. Je sais bien que quand quelqu'un me dit ça, je devrais dire, dis, t'as pas l'impression que... C'est la considération que nous donnons à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de le louer, de le célébrer, mais il s'agit aussi de réserver le meilleur pour lui. De réserver le meilleur pour lui. Connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Vous savez que Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn et qu'il a accepté les sacrifices d'Abel. Alors c'est un texte sur lequel il y a beaucoup de discussions. Théologique sur pourquoi Dieu n'a pas accepté le sacrifice, sur comment Dieu a montré qu'il n'avait pas accepté le sacrifice. Mais il y a deux grandes hypothèses qui sont des hypothèses très très vraisemblables par rapport à la raison pour laquelle Dieu n'accepte pas le sacrifice de Caïn. Il y a une première raison qui serait la question des intentions. Il semblerait que les intentions de cœur de Caïn n'était pas bonne. Parce qu'en fait, Hébreu insiste notamment sur la disposition de foi avec laquelle Abel a apporté le sacrifice. Et donc, on pense qu'il y aurait déjà une première question, c'est la question de disposition de cœur avec laquelle ils se sont approchés devant Dieu. Mais il y a une autre hypothèse qui est tout à fait juste et qui est complémentaire à celle-là, c'est l'hypothèse de la qualité des sacrifices qu'ils ont apportés. Caïn a apporté à Dieu le texte dit des produits de la terre. Caïn a apporté à Dieu des produits de la terre, alors qu'il nous est dit que Abel a apporté les premiers nés de son troupeau et leur graisse et de leur graisse. Abel a apporté les premiers nés de son troupeau. Et donc, selon cette deuxième hypothèse, on pense qu'en fait le texte essaye de nous montrer que Caïn a apporté un sacrifice qui était un sacrifice qui ne lui a pas coûté grand-chose. D'ailleurs, le texte dit, lui, il était cultivateur, hein, le texte dit, il a apporté les produits de la terre. Donc c'est comme si, bon voilà, il est cultivateur, il récolte des trucs de la terre, et il apporte les produits de la terre. Et voilà, je trompe des trucs, voilà, Seigneur, c'est pour toi. Alors que Abel, il nous est dit, donc il était berger, mais il a apporté les meilleurs de son troupeau. Il a apporté les premiers nés, il a apporté la graisse. En fait, c'est comme si il a réfléchi ce qu'il a voulu apporter à Dieu. Et un commentateur donnait l'exemple, c'est un peu comme quelqu'un qui offre un cadeau à quelqu'un et qui lui donne 50 euros, et une autre personne qui va aller chercher un cadeau dans des magasins, qui va prendre du temps en disant « qu'est-ce que je vais acheter ?» Vous voyez un peu la différence. Donc il a apporté un sacrifice de qualité. Il a réfléchi le sacrifice qu'il a apporté à Dieu et il a essayé d'apporter à Dieu le meilleur de ce qu'il avait. Nous sommes tous appelés à apporter à Dieu le meilleur de ce que nous avons, le meilleur de notre énergie. Nous avons une énergie. Le meilleur de notre énergie, il l'a donné à Dieu. Le meilleur de notre temps, le meilleur de nos biens, le meilleur de nos projets, le meilleur de nos pensées. Cela peut être aussi d'offrir à Dieu le meilleur de nos années, lorsque nous sommes jeunes. Donner à Dieu le meilleur de nos années, les années où nous sommes vigoureux, où nous avons plein d'idées, les donner à Dieu. Ça peut être de donner à Dieu la meilleure attention, de réserver à Dieu une vraie attention à sa personne, à sa gloire, à sa volonté, de lui adresser des mots que nous n'adressons à personne d'autre, une louange de qualité. Et vous savez, tout cela n'a rien de choquant en réalité. Ça n'a rien de choquant lorsque l'on pense à ce que Dieu a fait. Il a donné pour nous le meilleur. Il a donné son Fils unique. Il a donné le meilleur de ce qu'il avait. Et nous avons un chant qui dit que Dieu a vidé son ciel de gloire pour nous. Il nous a donné son Fils unique. Nous ne faisons que lui rendre le meilleur alors qu'il nous a donné le meilleur. C'est tout. Ça n'a rien de mystique, ça n'a rien de difficile à comprendre. Nous rendons à Dieu ce qu'il nous a donné. Quelles sont donc les raisons pour lesquelles nous devons mettre Dieu à la première place et lui donner le meilleur? Premièrement, pas pour être sauvés ou pas pour être aimés par lui. Nous sommes aimés par lui. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Nous n'avons donc pas à lui amener des sacrifices pour être sauvés ou pour qu'il nous aime plus. Mais premièrement, par amour pour lui. Par amour pour lui. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et parce que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, nous lui donnons la meilleure place, nous lui donnons le meilleur et nous le mettons au premier plan. Une deuxième raison pour laquelle nous devons apporter le meilleur à Dieu, cela nous est donné dans Malachie 1, verset 11, dans le texte que nous avons lu, il dit « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu où on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, car grand est mon nom parmi les nations. » Le verset nous explique une des raisons de la colère de Dieu envers les sacrificateurs, c'est que le nom de Dieu est grand, et le nom de Dieu est élevé, le nom de Dieu est appelé à être respecté. C'est un nom qui est digne d'honneur, c'est un nom qui est digne de célébration. Et parce que Dieu est grand, parce qu'il est Dieu, parce qu'il règne, alors il est digne du meilleur. La renommée de Dieu est universelle. Vous savez, aujourd'hui, cette renommée de Dieu, elle est voilée. Il est bien le Dieu qui règne sur toutes choses. Il est bien l'Éternel, mais c'est voilé. Et un jour, tout cela sera révélé. Et là, nous verrons à quel point ce grand Dieu glorieux méritait nos louanges. Nos offrandes sont la marque de la conscience que nous avons de la grandeur de Dieu. Lorsque nous voyons la grandeur de Dieu, alors nous sommes amenés automatiquement à lui offrir des offrandes qui manifestent cette grandeur. Toute personne de grande valeur mérite des honneurs qui soient à la hauteur de qui elle est. Toute personne. Nous venons de fêter le jubilé de la reine d'Angleterre. Vous avez suivi? Non? Ah, mais ça c'est... Evelyne, tu es toujours dans les bons coups, toi. C'est ça que j'aime bien. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils font, ils ne pensent pas. Quand c'est la reine Mathilde, ça ne les intéresse pas. La reine d'Angleterre, ça ne les intéresse pas. Mais toi, Evelyne, oui. Le jubilé de la reine d'Angleterre. 70 ans de règne. Ça impose le respect, hein, quand même. 70 ans qu'elle est au service de son peuple. Cette femme, elle a tout vu. Elle a tout vécu. Et elle reste sur son trône. Et cette reine, elle a eu des hommages extraordinaires. Si vous avez regardé un petit peu les images, à un moment donné, devant son palais, il y avait une foule immense. Immense. Et ils ont tous chanté le God save the Queen. Et c'était émouvant, et elle était là, elle avait une belle tenue jaune, verte. Verte, et elle avait un petit pompon noir. Elle était très belle, toujours, hein, bon, évidemment, on ne la voit pas en training. Hein, donc, elle était là, et tout le monde chantait, et tout le pays a été dans la joie pendant des jours et des jours à cause de la reine d'Angleterre. Mais ça doit nous interpeller, n'est-ce pas? Ça doit nous interpeller que cette reine humaine qui a certes 70 ans de règne, mais un jour, elle partira. Mais nous, nous fêtons le Dieu qui est roi d'éternité en éternité et dont le règne n'a pas de fin. Il n'a pas de mandat, il n'a pas de successeur. D'éternité en éternité, il est Dieu. Non seulement il est Dieu, mais aussi il est notre Rédempteur, notre Sauveur par Jésus-Christ. Il est la source de toutes choses, il est notre Père. Il est donc normal qu'il jouisse de cette place de choix dans nos vies. Pour terminer, peut-être que vous vous dites, c'est quand même un sujet avec lequel on revient souvent dans les églises, hein, cette histoire de Dieu à la première place, de Dieu premier servi, de tous ces trucs-là. Il n'y a pas autre chose dont on doit parler. Il y a la Bible, il y a plein de livres, il y a 66 livres, il y a bien un autre sujet dont on doit parler. Hein. Eh bien, dans tout métier, par exemple, il y a des compétences de base. Vous savez bien ça. Quand dans tout métier, il y a des choses qu'on doit savoir faire. Quand on est menuisier, on doit savoir utiliser une scie électrique. Si vous ne savez pas faire ça, alors vous ne savez rien faire. Vous devez travailler le bois, vous devez savoir mesurer, hein, David. David, il est menuisier, plombier, zingueur et tout. Il faut savoir faire tout ça. Il y a des choses qu'on doit savoir faire dans un métier. Eh bien, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on doit avoir acquis. Et quand on ne les a pas acquis, on peut faire le tour pendant 1000 fois, on ne sortira jamais du rond-point. Tant que cet aspect n'est pas clair pour nous, de mettre Dieu à la première place, on ne sait rien ajouter d'autre. On ne sait rien ajouter de, d'autres grandes doctrines, d'autres grands... C'est un essentiel. C'est un essentiel de la vie chrétienne de mettre Dieu à notre place, à sa place, et de le reconnaître dans ce qu'il est. Et sans cela, nos vies chrétiennes seront toujours un tout petit peu faibles. Et aussi, nos églises seront toujours un petit peu faibles lorsque Dieu n'est pas mis à la première place. Vous savez, dans notre église de Jumet, nous ne manquons de rien pour faire ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il y a à faire dans cette église, il y a suffisamment de gens pour le faire. Nous n'avons pas besoin d'appeler des escadrilles pour venir nous aider. Dans tous les services, tous les ministères, il y a suffisamment de gens ici pour le faire. Il faut simplement que nous puissions nous engager en mettant Dieu à sa place dans nos vies d'abord. Alors aujourd'hui, mettons-le à sa place, et quand nous nous saluerons tout à l'heure et pendant la semaine, saluons-nous avec cette belle devise. Messire Dieu, premier servi. Amen.